Bonjour et bienvenue à Une heure en Palestine. N'hésitez pas à vous référer au site Palestine 13 pour connaître l'agenda et les actualités, les campagnes et les actions en cours. Cette émission est animée aujourd'hui par Anne et Michel. Nous sommes deux adhérents de Palestine 13 et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Pascal André et Amina Mansouri pour évoquer le mouvement de solidarité citoyenne, de grève de la faim et de jeunes solidaires qui s'est mis en place à votre initiative, Pascal, depuis le 31 mars, depuis Marseille. Votre mouvement s'intitule « Fin de justice pour la Palestine, Hungry for Justice ». Il se veut l'expression à la fois d'une solidarité aux populations civiles de Gaza et plus globalement de Palestine et de revendications citoyennes pour le respect du droit international. Nous allons faire le point sur la dynamique du mouvement que vous avez lancé. Bonjour Pascal et bonjour Amina. Merci d'être avec nous à l'émission de Radio Galère, Une heure en Palestine. Le mouvement Fin de justice pour la Palestine traduit la réalité d'une situation intolérable qui se déroule depuis plus de 600 jours à Gaza, qualifiée de génocide par nombre d'ONG internationales et d'instances des Nations Unies, durant lesquels plus de 50 000 Gazaouis sont morts sous les bombes et les armes de l'armée israélienne. À présent, la famine est utilisée par Israël comme arme de guerre, violence d'une cruauté inimaginable, déployée au mépris de toutes les règles du droit international. Dès la rupture du cessez-le-feu décidé unilatéralement par Israël le 18 mars, 3 000 camions d'aide alimentaire et médicale ont été bloqués à la frontière. La totalité de la population de Gaza, soit plus de 2 millions de personnes, est confrontée à un risque critique de famine. Dans son dernier rapport, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qualifie la situation en Palestine de crime d'extermination. Dans un tel contexte, fin de justice pour la Palestine, l'intitulé de votre mouvement, se conjugue autant au sens propre qu'au sens figuré.
Pascal, vous êtes médecin urgentiste et vous avez participé à des missions médicales dans la bande de Gaza. Vous avez témoigné de votre engagement humanitaire, notamment à Marseille, en février 2024. Et vous êtes à l'initiative, avec Amina Mansouri, du mouvement Fin de justice pour la Palestine, qui a débuté à Marseille le 31 mars dernier. Après des arrêts dans plusieurs villes françaises, comme Clermont-Ferrand, Bordeaux, Lyon, Paris, le mouvement a atteint Bruxelles en mois de mai. Durant ce périple, vous avez engagé l'un et l'autre, et avec d'autres, une grève de la faim durant 3 semaines. Amina, vous êtes retraitée et votre engagement pour la Palestine est connu dans l'Aveyron, où vous résidez, et vous êtes à présent engagée pour la structuration du mouvement Fin de justice pour la Palestine. Avant de vous questionner, nous devons préciser à nos auditeurs que l'émission que vous entendez,
vous entends très
a été enregistré le 19 juin pour être diffusé sur les ondes de Radio Galère le 2 juillet. Cette précision est importante compte tenu de l'actualité immédiate. En effet, il n'est pas possible d'ignorer l'attaque de l'aviation israélienne le 13 juin contre les installations nucléaires de l'Iran. Cette attaque a été couplée avec les assassinats de hauts responsables militaires iraniens, d'experts scientifiques nucléaires, en ciblant leurs habitations au cœur de Téhéran, tuant de la même manière des personnes civiles innocentes. Les bombardements se poursuivent à travers tout le pays. Une nouvelle fois, l'attaque israélienne se commet en violation de toutes les règles internationales. Cette guerre contre l'Iran, alors que les négociations étaient en cours entre les États-Unis et l'Iran, vise aussi à détourner l'attention de l'opinion publique sur le génocide en cours à Gaza et le nettoyage ethnique qui se pratique en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. On ne peut que constater le réflexe de l'Europe et plus largement du monde occidental de soutien à l'action guerrière d'Israël et de faire en sorte que la situation en Palestine devienne un problème secondaire malgré les tueries quotidiennes. J'aurais une première question. Quelles sont vos réactions face à cette actualité qui peut évoluer de jour en jour?
Amina, salut. C'est mieux? Ok. La sidération d'une répétition de personnes qui invoquent au nom de la sécurité, donc d'un gouvernement qui s'assied sur le droit, la possibilité d'enfreindre tous les droits. Au nom d'une menace potentielle, d'un accès à une arme que certains pays ont décidé d'obtenir pour eux, de pouvoir attaquer une population sans respecter aucun des droits. Donc c'est la sidération de voir notre gouvernement soutenir une action comme celle-là de manière extrêmement ambivalente. Des Occidentaux et des États-Unis d'Amérique valider encore une fois le non-respect du droit. Si nous vivons ensemble, c'est grâce au droit. Si ça n'est pas la jungle, c'est grâce au droit et l'application du droit et à la justice. Et donc, bien entendu, cela fait écho avec ce qui se passe en territoire de Palestine depuis tant de décennies. Ce qui vient de se passer en mer avec l'arraisonnement d'un bateau dans les eaux internationales, avec l'incarcération ensuite de son équipage, et ce qui se passe tous les jours à Gaza et en Cisjordanie avec plus de 10 000 prisonniers encore actuellement, au moins, dans des conditions d'étention totalement innommables et sans aucun jugement.
Est-ce qu'on pourrait rajouter, quelle peut être la solidaire face à un tel déploiement de la force armée d'Israël, qui est aujourd'hui, très, très nettement parlant, un acte de guerre? Quelle est la place d'un mouvement de solidarité citoyenne? Quelle place peut-il avoir?
Amina?
C'est vraiment difficile de répondre, puisqu'il y a quelques semaines de ça, avec Pascal et le mouvement Sainte Justice pour la Palestine, nous étions peut-être un peu dubitatifs néanmoins, mais en tout cas on espérait que ce mouvement pacifique les faire taire les espaces silencieux, et on se rend compte qu'ils ont continué à se taire. Je rejoins Pascal dans la sidération. Je suis pas très étonné que de la réplique de ce qui se passe, mais ce qui continue de me mettre en colère, comme je l'ai dit au début mars, enfin en mars, quand on était interrogé sur notre mouvement, c'est alors là on peut plus parler de silence hein, du monde occidental, mais du soutien très clair à l'égard d'Israël qui attaque un autre pays. Donc on est dans la répétition. Là, il y a bientôt, si ça continue, on aura 2 millions de morts de faim à Gaza, mais là, c'est pas grave. Israël a encore le droit de répliquer de manière préventive. Je sais pas où on va. En tout cas, c'est fort inquiétant, parce que ça va prendre des proportions qu'on va pas pouvoir mesurer. Je pense que les mouvements citoyens, en tout cas, ont montré qu'ils pouvaient se mobiliser, en tout cas dans le monde entier, puisque 55 États étaient représentés dans la marche de Gaza, même s'ils ont été refoulés par l'horrible Sisi, président égyptien. Mais il y a de quoi s'inquiéter. En tout cas, ça ne va pas faire arrêter les mouvements citoyens, je pense. Moi, en tout cas, j'ai encore plus honte que je n'avais honte en mars de notre gouvernement français face à ce silence assourdissant. C'est même plus un silence, c'est une réelle complicité à l'égard de ce qui se passe.
Donc, continuons à parler, à dire les choses, à poser les questions, on ne va pas se taire. Alors, non. Voilà. Et donc, là, on voudrait vous poser tous les deux, Pascal et Amina, plusieurs questions qu'on va aborder en deux parties. D'abord, le lancement du mouvement. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu, s'il vous plaît, de la motivation initiale qui vous a amené à lancer ce mouvement, Fin de justice?
En 2024, fin décembre 2023 et janvier 2024, avec plusieurs personnes de l'Aveyron, beaucoup de personnes ayant l'expérience de la non-violence, de la communauté de l'Arche, de la grève de la faim comme outil potentiel d'action, on s'était posé la question d'une action d'identification, d'action symbolique pour montrer ce que vivait déjà à ce moment-là une grande partie de la population palestinienne de Gaza. Ce mouvement était peut-être initialement réfléchi comme un mouvement mobile avec de différentes régions de France ou d'Europe une synergie pour aller ensuite vers Bruxelles. Déjà avec l'idée de faire un mouvement totalement non violent, apolitique, laïque et sans étiquette. Ça ne s'est pas fait parce que les gens n'étaient pas totalement motivés, que le mot grève de la faim faisait peur, on partait plus sur du jeûne et que d'autres actions ont été mises en place, que Rafah était encore ouvert à ce moment-là, quelques camions rentraient et donc l'émotion était moins marquée. Personnellement, je devais repartir. J'ai essayé de repartir à trois reprises après mon séjour donc en février 2024 donc à l'hôpital européen à Ran Younes. Et lorsque fin mars, donc j'ai appris que je ne pouvais pas repartir parce que la mission dans laquelle la rotation dans laquelle je devais aller avec Caravane Solidaire avait été annulée, comme la plupart bien entendu des rotations soignantes ou humanitaires à Gaza. J'ai proposé donc à un certain nombre de personnes avec lesquelles on travaille sur des dynamiques citoyennes horizontales depuis maintenant plusieurs mois avec Open Gaza, avec Stop Impunity, de lancer la dynamique à nouveau. Et donc plusieurs d'entre eux ont répondu. Donc c'est pas du tout une dynamique centrée autour d'un soignant. C'est une dynamique citoyenne de personnes qui ne supportaient pas et qui ne supportent pas rester inactif face au drame en cours.
Et ta rencontre avec Amina, Pascal ?
Dans Amio, nous avons, comme dans beaucoup de villes, donc une résistance et une expression citoyenne hebdomadaire depuis les événements d'octobre 2023. Sur un territoire qui... C'est quand même le Larzac, c'est quand même... un pays de résistance autour de la non-violence, autour du respect du droit d'un désir de ne pas lâcher et d'un désir de permettre la rencontre de cultures différentes. C'est ça le Larzac, c'est ça qui a permis d'aboutir. Un terrain facilitant avec donc plusieurs personnes sur place impliquées. Hein, donc de chez nous, il y avait aussi Marie et sa fille Louba qui étaient présentes, et puis aussi bien d'autres acteurs qui ont été présents. Je pense à Rislaine et à Raled qui ont été dans la grève de la faim dès le début. Et puis bien d'autres qui sont venus se joindre après, soit sous forme de jeûne, soit sous forme de grève de la faim, en restant chez eux. Donc je pense aux amis de Strasbourg, Leïla et Georges, et beaucoup d'autres qui nous ont rejoints ensuite.
Alors vous étiez à Marseille, vous avez démarré cette année à Marseille. C'était le mois de...
Le 31 mars.
Le 31 mars, vous avez fait une conférence de presse.
Oui, j'avais proposé Marseille au groupe parce que j'avais un bon souvenir de Marseille. Marseille, phare de la Méditerranée, Marseille, lieu où la différence est célébrée. Et parce que l'année dernière, on avait été merveilleusement bien reçus avec mon collègue Raled Ben Boutrif lorsqu'on était de retour de Gaza. On avait une conférence de presse qui avait duré 2h30, on avait rencontré une douzaine de journalistes, et ça avait été très très fort. Et là, ça a été un gros flop, parce que ce sujet-là est aujourd'hui très, très compliqué à porter au sein des comités de rédaction. Alors c'est probablement pas l'éthique de certains journalistes qui est en cause, c'est plutôt l'inquiétude de leur comité de rédaction ou l'absence de référence à l'éthique de certains d'entre eux, c'est-à-dire de pouvoir critiquer et vérifier l'information qui est transmise et qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie donc, des comités de rédaction de la presse audiovisuelle est écrite et aujourd'hui sous influence sous influence d'un politique qui fait peur, d'une loi complètement, d'une circulaire complètement castratrice des libertés publiques pondue donc par Dupond-Moretti, Monsieur Dupond-Moretti, donc 3 jours après donc les événements au mois d'octobre 2023. Et qui empêche toute recontextualisation, qui empêche toute critique et compréhension, et qui met d'autres mots que les mots utilisés aujourd'hui, qui sont des mots qui veulent signifier, qui veulent entraîner une déshumanisation, qui veulent entraîner de la violence sur ceux qui sont de l'autre côté du mur, qui entraînent des fermetures totales, hein, en disant c'est une situation extrêmement complexe, c'est une situation où la religion est omniprésente. Bon, ça n'est pas la réalité du tout, puisque le droit international est totalement explicite là-dessus, et que malheureusement, la plupart de ceux qui ont un discours comme ça et qui se réfugient derrière la complexité n'ont pas lu les différents avis de la Cour internationale de justice de 2024. Ne sont pas au courant de l'histoire et n'ont jamais eu écho de ce qui se passe réellement sur place, car aucun d'entre eux ou aucune d'entre eux ne pourrait vivre ce qui se passe en termes d'apartheid, en termes de colonisation, colonisation des territoires, colonisation des corps, colonisation des esprits, ou d'atteinte physique avec ces violences dont nous avons été témoins directs. Ces violences, ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité et cette intention génocidaire que nous, témoins soignants, parmi les 35 soignants français ayant été à Gaza depuis janvier 2024, relatons sans cesse depuis nos retours. Et donc devant cette désespérance de ne plus savoir comment faire, après avoir tenté de rencontrer au plus haut niveau français, européen, depuis des mois et des mois, et de voir que pas grand-chose ne bouge, mettre en scène la fragilité face à la violence et face à l'armée la plus, une des armées les plus sophistiquées du monde, que ce soit sur un bateau ou que ce soit dans nos corps, à travers la grève de la faim, devenait un chemin nécessaire.
Et donc, vous étiez plusieurs à Marseille à partir du 31 mars. Amina était présente aussi. Vous êtes partie de Marseille. Vous étiez combien en tout? Et quels étaient les objectifs recherchés au début par le mouvement Femmes de Justice?
Je vais laisser raconter Amina sur la dynamique. Juste, je reviens sur les objectifs que nous avions ciblés. Donc, comme je viens de l'exprimer, mettre en scène la fragilité. Rappeler simplement que le peuple palestinien a faim et soif de justice, de pain bien entendu depuis le 3 mars puisque rien ne rentre et la population est en train de mourir. Mais lorsque les Palestiniens nous disent, quand on est sur place, moi ça a été le cas à Tul Karem, à Jenin et à Khan Younes, merci d'être là mais repars chez toi car on meurt en raison de votre indifférence et de votre hypocrisie. Notre premier moteur, c'était de dire que l'on avait faim de justice, et qu'il n'était pas question que la justice soit terminée.
Mais vous étiez organisé, vous avez essayé de éveiller les consciences, vous avez fait pression sur les médias, vous êtes allé à la rencontre des personnages politiques, les milieux culturels, les lieux de culte et tout ça. Comment vous avez mis ça en place, c'était organisé dès le début?
On a pris du temps. L'horizontale, c'est bien, mais c'est fatigant, ça prend beaucoup de temps, mais c'est très nécessaire pour éviter les enjeux d'ego. On a pris beaucoup de temps pour définir 4 objectifs. Le premier, bien entendu, c'était de dire qu'il n'était pas question, l'objectif global était bien entendu un cessez-le-feu immédiat, que les forces armées israéliennes s'en aillent et que l'impunité stoppe. Et donc pour cela, bien entendu, il fallait l'arrêt de la coopération économique entre la France et l'Europe et Israël, c'est-à-dire le respect de l'article 2 du traité de coopération UE-Israël. Pareil pour le programme scientifique Horizon. Donc ça, c'était un élément extrêmement important. L'arrêt immédiat, bien entendu, de tout transfert de technologie ou d'armement, qui, contrairement à ce qu'annonce le gouvernement depuis des mois et des mois, continue, puisque vous avez bien vu que ça s'est encore passé récemment et que le rapport de Disclose vient clairement illustrer ce qui se passe entre la France, l'Europe et Israël. Donc ça, c'était des éléments très importants. Un élément très important aussi, c'était qu'il y avait un point qui n'était pas négociable. C'est lorsque un premier ministre israélien et un de ses adjoints est poursuivi devant la Cour pénale internationale et qu'on le laisse survoler le ciel européen et français sans réagir, c'est ne pas respecter le droit. Donc ça, ça fait partie des choses non négociables. Et le quatrième point qui a été extrêmement important et qui nous a permis de ne pas avoir faim durant ces 24 ou 25 jours donc de grève de la faim où on n'a bu que de l'eau et quelques tisanes, ça a été d'essayer d'ouvrir des espaces de silence. Et ces espaces de silence, c'était d'abord les communes qu'on a traversées, ça a été les lieux de culte, les lieux culturels, les lieux de la santé. Et donc Amina va vous en parler à travers notre expérience. On a eu quelques succès, beaucoup de déconvenues, en particulier au niveau politique. Mais surtout, ce qui nous a énormément nourris, c'était de revoir des lueurs d'espoir dans le regard triste et perdu de nombreux citoyens et citoyennes qui ne comprennent pas comment ce qui se passe peut continuer à advenir dans un silence terrible. Et donc, face au découragement, comme l'a montré récemment l'équipage du Madeleine, les consciences s'éveillent. Et clairement, pour répondre à ta question, clairement, la mobilisation citoyenne est une force énorme. Quand les politiques que l'on rencontre au plus haut niveau France et Europe nous disent « la pression citoyenne est déterminante pour faire bouger le politique », lorsque Dominique de Villepin nous dit « la pression citoyenne est déterminante, les efforts de mémoire et de miroir sont déterminants et la pression juridique est déterminante pour faire bouger le politique », nous sommes là pour ça, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue que ce soit des citoyens de se mettre en danger pour pouvoir exiger du politique qu'il fasse ce pour quoi il était élu. Mmh. On marche sur la tête.
Donc quel bilan pouvez-vous en tirer de cette première phase du mouvement qui a duré combien de temps? Vous êtes allé jusqu'à Bruxelles.
25 jours.
25 jours. Donc vous, tous les deux, vous avez fait grève de la faim pendant 25 jours?
Oui.
Et après, vous étiez à Bruxelles. Et qu'est-ce que vous en dites alors de ce que vous avez pu vivre et les rencontres que vous avez faites? Quel est votre bilan aujourd'hui de cette première phase?
Alors, de Marseille à Bruxelles, en passant par différentes étapes, et notamment Genève, ce qu'on a pu observer, c'est que certains lieux silencieux s'ouvraient sur la fin de notre parcours, notamment certaines municipalités. On a pu rencontrer des élus, et même à Saint-Tite-Grève, en Savoie, le maire et un député. Pascal parlait tout à l'heure des lieux silencieux tels que les lieux culturels, et nous avons eu la chance de pouvoir assister à deux rencontres culturelles, l'une à Montpellier et l'autre à Clermont-Ferrand. Au niveau politique, bon, je vous l'ai dit, hein, on a eu voilà, quelques lieux, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très peu par rapport à notre mouvement et à l'ampleur qu'il semblait prendre, en tout cas. Hein. La culture, bon, je pense qu'on pourrait demander à Hervé d'en parler, mais enfin, sur les 25 jours, on a... Bon, je pense que c'est du côté du monde, mais enfin, il n'y a pas grand-chose qui s'est ouvert. Je pense que on n'attendait pas que pendant les 25 jours, il se passe quelque chose. C'était l'idée de que ça soit l'amorce de quelque chose. Donc, il y a eu des répercussions dans l'après-coup.
Voilà, on va en parler tout à l'heure de ça, mais c'est amorcé. Il y a un mouvement. Il faut du temps que ça prend forme, mais c'est toujours en train de prendre forme et ça ne va pas s'arrêter. Tout à l'heure, Amina, on va parler avec toi de la structuration actuelle. Juste pour finir ici. Est-ce que vous pouvez dire les points positifs ou les difficultés, par exemple, ce que vous avez rencontré?
Les points positifs, il y en a, Dieu merci.
Oui.
On a en tout cas sur notre parcours rencontré énormément de gens et forcément, on a rencontré des gens qui étaient à la fois touchés par la situation et qui s'interrogeaient en tout cas sur quel mode d'action ils pouvaient avoir. On a rencontré beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils avaient pensé à la grève de la faim depuis longtemps, mais que voilà, seuls, ils n'y avaient pas, ils n'étaient pas autorisés en tout cas à démarrer seuls. Donc on a rencontré des gens désespérés qui ne savaient plus, enfin en tout cas des gens qui allaient très mal, et je pense que ça continue, puisque dans notre groupe là, il y a une jeune femme à Nantes qui était un peu la coordinatrice, je vais vous parler des coordinations de Nantes, qui nous a contacté par mail et qui nous a dit que là elle était, voilà, elle n'allait pas bien du tout au regard de l'évolution de la situation à Gaza, en Palestine, qu'elle n'était plus physiquement en capacité de à la fois de jeûner et d'assurer la coordination. Donc en tout cas cette situation terrible, elle rend malade énormément de gens.
Ah,
on en a rencontré beaucoup et je pense qu'il va y en avoir énormément. Là, au jour d'aujourd'hui, on a travaillé sur des coordinations régionales parce que c'est difficile de gérer ça, à la fois pour Pascal qui a repris une activité et moi qui en reprends une partiellement, mais en tout cas qui n'est pas aussi disponible que je souhaiterais l'être. Mais donc, il y a des coordinations un peu partout en France. Si on veut commencer par Marseille, Michel, je crois, attend un binôme pour pouvoir coordonner un petit peu l'action des jeûneurs dans cette région. En Rhône-Alpes, qui est un département, qui est une région quand même assez large, il y a des personnes qui sont positionnées, hein, je pense à Brigitte, Nadine et Saïda. Dans le centre Val-de-Loire, Auvergne, il y a Imad, et pour le moment il est seul, il attend un binôme. La région Franche-Comté, Mustapha, qui a fait partie des jeuneurs, est donc positionné. Bah, dans le Grand Est, on avait deux grévistes, Georges et Leïla. Peut-être Bernard les rejoindra pour la coordination. La région parisienne, qui est une des plus grosses régions en termes de nombre de jeûneurs, est coordonnée pour le moment par Souad, mais elle a du mal à trouver un binôme et la région est très très grande. L'Ouest Bretagne est un peu plus structuré puisqu'on a tiré sur Brest, Célia sur Rennes et Océane qui lâche quelque temps, le temps de se remettre un peu. Et dans le nord de la France, avec l'Ouest Normandie, il y a Khadija et Zachary. Donc parmi les personnes qui sont présentes, il y a quand même Zachary qui est médecin, Georges qui est médecin également et Imad.
Ok, alors une dernière question. On va faire une petite pause tout à l'heure avant de passer à plus d'informations autour de la structuration du mouvement actuellement, où est-ce que nous allons, comment ça prend de l'ampleur. Une dernière question pour Pascal, peut-être, en s'engageant dans le mouvement. Il y avait un lien sur votre site, Hungry for Justice, qui donnait accès à des ressources documentaires qui étaient disponibles pour le plaidoyer en français, en anglais, peut-être en d'autres langues, je ne sais pas. Est-ce que ce lien existe? Sinon, comment on peut faire? Quelle est l'importance comme outil de sensibilisation pour les personnes qui s'y intéressent, qui veulent se documenter, qui veulent agir, qui veulent créer des groupes de jeunes ou voire de grévistes. Qu'est-ce que tu nous dis, Pascal?
Que le silence dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le silence imposé aux Palestiniens, aux voix palestiniennes. Que j'ai eu la chance de pouvoir aller en Cisjordanie, à Gaza, et puis après avec l'équipe de Stop Impunity, puis l'équipe d'Hungry, donc en France et en Europe, et qu'on a pu enregistrer, parce que les citoyens et citoyennes ont voulu parler, énormément de témoignages de voix palestiniennes, de Gaza, de Cisjordanie et d'Europe. Et ces voix ont besoin d'être entendues. Ces voix permettent de comprendre l'humanité profonde de chacune des personnes qui vit sur place et le drame lié à l'injustice par non-application du droit et par non-respect du droit par nos politiques nationales et européennes.
C'est le demande à tous les Palestiniens qu'on rencontre là-bas. Ils disent tous « parlez pour nous » parce que nous, on n'est pas entendus, on ne nous croit pas. Enfin voilà, ils sont mis sous silence. Donc c'est vraiment ça que tu dis là, Pascal.
Donc vous trouverez dans le dernier communiqué d'Hungry for Justice in Palestine. On mettra sur le site de Radio Galère. Ou sinon vous pouvez trouver sur le site, donc si vous allez sur Hungry for Justice, vous trouverez donc le lien. Et là vous trouverez des documents donc audio, vidéo, qui vous permettront d'entendre les soignants, les citoyens de Ranounès, de Tulkarem, de Jenin, de Naplouse. Et je pense que c'est très important pour changer nos représentations. De l'autre côté du mur, il n'y a pas de barbares, il n'y a pas de gens violents. Il y a des gens qui veulent simplement vivre en paix selon leurs droits. Et beaucoup nous disent, c'est pas de pain, c'est pas de médicaments dont nous avons besoin. Bon, bien sûr, là, au bout de 2 mois, 3 mois de famine, évidemment qu'ils en ont besoin. Mais c'est surtout de l'application de notre droit. Et que vous nous reconnaissiez cette humanité et qu'au même titre que vous, ce droit s'applique pour nous. Donc clairement, je pense que ça peut aider sur ce changement de représentation, car le discours qui reste encore majoritaire, même si ça s'ouvre un petit peu depuis un mois et demi, nous déshumanise totalement les Palestiniens et les Palestiniennes. Et c'est absolument honteux. C'est absolument honteux qu'on ait un président qui soit dans une projection totalement néocoloniale, à proposer des solutions qui n'intègrent pas les dynamiques palestiniennes. Qui sont les politiques qui, en France, sont capables de se réunir tous ensemble pour discuter de l'avenir du pays et se mettre d'accord pour un chemin pour reconstruire et provoquer des élections? Ben, les Palestiniens l'ont fait à Pékin, ils l'ont fait ailleurs. Et donc, c'est important de leur donner voix.
Écoutons maintenant une chanson choisie par Pascal, qui s'appelle Maotini.
Maotini, donc Maotini. C'est un chant chanté par des enfants sur la plage de Gaza, donc avant les événements d'octobre 2023. Je vous invite à aller la voir sur YouTube parce que vous allez voir des enfants qui ressemblent à vos enfants et vous allez peut-être vous imaginer que finalement ce qui se vit là-bas pourrait vous arriver et que ce sont les mêmes humains que vous et que nous avons une humanité commune et donc nous devons respecter les droits pour tous.
Bonjour de Gaza la vie. Chaque pays souverain a son propre hymne national qui est diffusé après avoir obtenu son indépendance. Mais l'hymne national palestinien, il a précédé l'indépendance de la Palestine.
Merci Amina d'avoir déjà répondu à un certain nombre de questions concernant l'importance du mouvement tel qu'il se déploie actuellement sur le territoire. Ce qui serait intéressant, c'est d'aborder certaines questions sur la structuration du mouvement. Et il y a une question toute simple qui peut intéresser vraiment les gens qui sont intéressés pour s'engager ou non, ou qui peuvent hésiter. C'est quelle est la différence entre un gréviste de la faim et un jeûneur solidaire?
On va la retrouver. Pascal, est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? On va retrouver
Amina. Amina arrive. Tu veux que je réponde à sa place? Il n'y a pas de problème. Donc, Amina est en, à distance, la ligne est en train d'être rétablie. Donc, Amina, pendant donc, le périple où on était donc, nombreux, avait tendance à dire « le jeûneur, c'est un engagement en CDD, le gréviste en CDI ». Maintenant que ce mouvement s'étend donc à l'échelon européen et international, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de pays appelaient grévistes de la faim toute personne qui arrêtait de manger. Ce qui est logique, mais en même temps, ce qui en termes de symbolique et de plaidoyer politique pose un peu souci. Donc a été défini par le groupe européen là, qui travaille dessus, donc avec des Hollandais, des Allemands, des Belges, des Suisses, des Français pour l'instant. Donc une définition de jeûneur moins de 10 jours et gréviste plus de 10 jours. Voilà. C'est pour l'instant comme ça que c'est organisé. Ce qui compte clairement, et Amina l'a testé, c'est de ne pas le faire seule. C'est-à-dire qu'elle a choisi de refaire une grève de la faim de 11 jours, après avoir fait 25 jours, mais elle l'a fait seule. Et clairement, avec Rislaine, Raled et tous les autres qui nous ont accompagnés, c'est quand même beaucoup plus facile d'être accompagné. Alors certains d'entre nous, je pense à Leïla, à Georges et à d'autres, l'ont fait de chez eux. Mais c'est quand même compliqué d'être chez soi, seul, pour un mouvement qui est quand même un mouvement d'engagement pour redonner parole et se nourrir des échanges. Et c'est vrai qu'on a été extrêmement frappés de notre facilité à vivre ces 25 jours sans manger. Alors oui, on était fatigués. Hein. Moi, clairement, le fait d'être en fauteuil roulant après le 18e jour, de ne plus pouvoir porter nos sacs, nos ordinateurs, etc., est venu dire quelque chose, montrer quelque chose et travailler sur une image qui était rien par rapport à ce que vivent les Palestiniens et Palestiniennes. C'est-à-dire que moi, j'avais perdu 15 kilos. Ces 15 kilos, c'était l'équivalent pour mes confrères. Quand j'y étais en février, ils avaient déjà perdu 8 kilos en moyenne, 15 kilos. Donc ça devait être probablement en juin l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont à moins 25, moins 30 kilos pour la plupart d'entre eux. Dans des conditions dantesques, c'est-à-dire que nous on arrête quand on veut, on dort au chaud parce qu'on est accueilli et on n'a pas des drones et des bombes en permanence en ayant perdu 30 à 60 personnes de nos familles. Donc franchement, toute cette mise en scène symbolique que l'on a voulu faire porter n'est rien du tout, et ce qui compte surtout dans tous ces mouvements, c'est qu'aucun d'entre nous se mette en avant et qu'on soit tous tournés vers les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. L'équipage de Madeleine l'a merveilleusement bien illustré. Je pense que c'est vraiment l'enjeu. Les différentes marches qui sont en cours, la marche pour Gaza, la marche pour les prisonniers, les grands mouvements qui viennent d'avoir lieu à La Haye, à Bruxelles, en Italie, viennent le signifier. Il ne s'agit pas de territoire, il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit de l'application du droit et d'être fidèle à nos consciences dans un monde qui part sans boussole et qui devient une jungle.
Merci, merci Pascal. Il y a une deuxième question moi, qui m'interpelle, c'est est-ce que lors du premier mouvement, le lancement du mouvement, vous avez pu assister à une forme de dynamique qui pourrait s'appliquer à l'échelle nationale, ou au contraire, faut-il en structurer le mouvement actuellement dans une échelle plus globale, dans une échelle européenne, s'associant avec d'autres pays qui ont déjà largement engagé ce type d'action symbolique et citoyenne.
Ce qui nous a paru important, c'était d'éviter un fonctionnement vertical. Ce qui donne du goût dans ces dynamiques citoyennes, c'est le fonctionnement horizontal de proximité. Donc ce que Amina vous a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on essaie de faciliter tant au niveau européen, Mustapha y travaille avec les Belges, les Suisses, Rislaine aussi, à ce qu'il y ait une appropriation par chacun des dynamiques locales pour que nous puissions colliger ensuite les actions mises en place, le nombre de jeûneurs, le nombre de grévistes, mais surtout sans devenir une super méga super organisation qui s'approprierait en fait l'engagement individuel de chacun. Et ce qui est déterminant dans un mouvement comme celui-là, c'est que comme sur le Madeleine, chacun est totalement libre à n'importe quel moment de choisir ce qu'il veut. d'arrêter quand il veut et de faire ce qu'il veut. Et cette liberté est fondamentale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun endoctrinement. C'est juste être attentif à ce qui bouge au plus profond de notre conscience dans l'idée que le droit soit respecté et que cette mascarade cesse et que cette catastrophe humanitaire se termine.
J'entends bien la réponse. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est au niveau de l'organisation. Comment faire en sorte que l'engagement de chacun, en fonction de sa conscience, de sa liberté, puisse devenir un élément de revendication réelle vis-à-vis des pouvoirs politiques, en se disant il y a une conscience politique, il y a une conscience citoyenne qui se manifeste et qui porte quelque chose, des valeurs, et qui demande à ce que le monde du silence cesse actuellement. Et donc ça veut dire que, d'une certaine façon, au niveau de la structuration du mouvement, il doit y avoir une forme de présence, d'organisation pour faire porter cette parole, non plus simplement individuelle, mais collective.
Dans les faits, c'est ce qui se passe quand même un petit peu. Lors des différentes étapes, on a quand même été reçus par des collectifs, qu'ils s'appellent AFPS ou autres. Donc dans la réalité, c'est quand même ça. C'est très difficile, comme je le disais tout à l'heure, comme Pascal le disait, être tout seul et faire le jeûne ou la grève, c'est compliqué. Faire du bruit, en tout cas, je pense qu'il s'agit de faire du bruit, de se faire entendre seul, c'est compliqué. Alors c'est pas nous qui devons décider de quelle organisation doit se mettre en place pour supporter les mouvements. Je pense que seul c'est pas possible. À notre échelle, moi en tout cas, j'ai quand même beaucoup de mal à être en lien régulièrement avec toutes les coordinations. Ça demande sans doute du temps, mais je pense que le plus important, c'est de continuer à faire du bruit, de continuer à alerter les politiques locaux, de continuer à faire des actions. On reçoit quand même des informations sur les collectifs qui agitent un peu l'environnement politique, culturel et médiatique. Ben, je pense qu'il faut que ça continue, parce que de toute façon, c'est pas prêt de s'arrêter. À l'image de la situation actuellement dans cette région, je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette situation. Mais je dis pas que c'est simple. Ça demande beaucoup d'énergie, surtout quand on fonctionne de manière horizontale. Nos amis sont engagés dans d'autres marches, dans d'autres choses. Donc on n'est quand même pas très nombreux avec Pascal pour non pas porter, mais pour être en lien avec les différents collectifs. Mais je crois que peu importe par qui ils sont portés, les collectifs ont à choisir eux-mêmes leur mode d'action. On n'a pas de leçon à donner. Moi, par exemple, je peux vous dire que pour l'Aveyron, il y a une quinzaine de jeûneurs qui se retrouvent tous les mercredis à 18h, place de la Capelle, qui est une place qui est connue pour recevoir les rassemblements pour le cessez-le-feu à Gaza depuis octobre 2023. Cet endroit est connu, ça fait trace, ça fait mémoire. On n'est pas nombreux, il y a 15 personnes, mais en tout cas, tous les mercredis, ils sont présents. Et ils informent les passants de cette situation à Rennes, même d'autres types d'actions. Peut-être à Marseille aussi, il y a d'autres choses. Mais je pense que c'est à chacun de trouver son mode d'action. Mais en tout cas, il faut continuer à faire du bruit. Il faut continuer à parler de la Palestine et des Palestiniens. Parce que je pense que si ça continue, il n'y aura plus de Palestiniens ni de Palestine.
Il serait intéressant aussi que chacun des jeûneurs ou des personnes en grève de la faim puisse s'inscrire sur le site.
Oui, voilà.
Parce que c'est ça qui nous donne du poids dans le plaidoyer politique. Donc chacun peut le faire au niveau de sa commune. C'est très important. C'est lieu de culte, c'est lieu de culture. Mais c'est vrai que les actions que l'on mène au niveau national ou international ont d'autant plus de poids que l'on est nombreux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas à relayer ce que vous faites sur place. Et aussi à venir nous renforcer pour travailler sur Instagram et sur les réseaux, car les quelques-uns qui le font sont très surmenés. Et donc, on a vraiment besoin de relais. Et aussi, publier ce que vous faites, car clairement, c'est ce qui permet de travailler sur nos représentations et notre investissement collectif.
Donc, pour trouver le site, je pense qu'on peut juste rechercher « Fin de justice ». pour la Palestine ou fin de justice.
Hungry for justice.
Oui, mais même si on le tape en français, on le trouve.
Aussi, voilà.
Donc on peut y avoir accès pour toute personne qui s'y intéresse, qui veut s'engager, qui veut s'informer. Voilà. Alors, quel est votre dernier message que vous souhaitez transmettre? Et parlez-nous un petit peu de Bruxelles, Pascal et Amina, parce que je crois qu'il y a des choses qui se passent très bientôt à Bruxelles.
Mais vous savez donc que les dynamiques citoyennes sont multiples. Hein. Les peuples se lèvent parce que les peuples ne veulent pas vivre dans cette indifférence et dans ce silence, ce non-respect du droit, car on aime la diversité, on aime l'humanité partagée. Il n'y a aucune dynamique d'antisémitisme dans ces dynamiques-là. C'est des dynamiques de respect du droit qui permettent à chacun d'être protégé, bien plus que ne le font les armes. Donc, vous savez que la flottille, donc, l'équipage est rentré après donc, un arraisonnement et des interpellations et des emprisonnements totalement hors cadre légal.
Et votre fils a participé à
oui,
ce
bon,
voyage.
Oui, c'est un des éléments parmi d'autres au service donc, de mettre la parole là où il y a du silence. La marche pour Gaza, comme l'a dit Amina, a été
C'est mettre la parole où il y a le silence et créer le silence là où il y a trop de paroles vides. C'est pas mal. C'est pas mal.
Donc, à Bruxelles, là, aujourd'hui, il y a un grand mouvement qui a lieu, un campement qui a lieu devant le Parlement européen, donc par des soignants pour la Palestine. Et ce week-end, donc, beaucoup de délégations de marcheurs qui n'ont pas pu aller jusqu'à Rafah se réunissent donc à Bruxelles. Probablement, un campement est en cours par du centenaire. Donc à Bruxelles, avant de rejoindre lundi plusieurs manifestations qui sont organisées en regard de la Commission européenne et la Commission des affaires étrangères, car lundi sera traitée la question de l'article 2, comme s'il fallait encore démontrer aujourd'hui qu'Israël s'asseyait sur les droits humains et s'asseyait sur le droit international.
Et moi, il me semble avoir entendu Catherine Le Scolan-Terry, qui est donc la coordinatrice de la marche de Gaza pour la France, et qui a été une de nos accueillantes à Rennes, il y a un rassemblement devant le Parlement mercredi. J'attends une confirmation parce que j'espère pouvoir me libérer pour faire un saut mercredi à Bruxelles dans la journée parce que je travaille.
Bien, merci. Merci à Amina, merci Pascal.
Merci à vous.
Donc cette émission est enregistrée aujourd'hui pour être diffusée le 2 juillet. Elle fera l'objet d'un texte également qui paraîtra sur le site Palestine 13. Donc, au niveau de Marseille, on concourt à donner le maximum d'informations autour de ce mouvement citoyen.
Michel, il y avait des marcheuses marseillaises. Avez-vous eu des nouvelles?
Pardon, Amina?
Parmi les marcheurs, il y avait deux marseillaises.
Il y a eu,
oui,
il y a eu plusieurs.
De l'UJFP, je crois.
Il y a eu plusieurs
marcheuses. Fabienne et Florence, je crois.
Ouais.
Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bintesh Shalabi.